La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec surtout Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, fondateur du site d'information Slate.fr et ancien directeur du Monde, qui sont nos esprits libres du vendredi. Bonjour vous deux.
Bonjour David.
Commençons par l'actualité politique. Elle est toute chaude. C'est dans une heure où ça a même commencé ce rendez-vous de Saint-Denis entre le président de la République et les partis politiques. J'allais dire ce qu'il en reste. Parce qu'ils n'y vont pas tous. Est-ce que les absents ont tort?
Les absents ont tort et en même temps, ils mettent aussi une claque à celui qui invite. C'est les deux choses. Et je trouve que ça arrive dans une période qui est compliquée pour Emmanuel Macron, où il y a à nouveau un doute qui est en train de s'installer parmi ses proches. En fait, depuis le début de ce deuxième mandat, il multiplie les initiatives pour faire oublier qu'il n'a pas la majorité absolue. Et dès qu'il y a une initiative qui s'enraye ou qui fonctionne plus, et ben du coup, ça se voit, ce vide, c'est où on va. Enfin, je suis très frappée cette semaine des interrogations ouvertes des ministres sur on comprend pas ce qu'il fait, il n'était pas dans la marche contre l'antisémitisme, ça revient beaucoup, il est isolé, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu des propos de Bruno Le Maire là depuis une semaine qui dit il faut quand même qu'on ait un agenda de réforme, il reste quand même 3 ans et demi, on a l'impression un peu d'une fin de règne.
Jean-Marie Colombani, ce que dit Cécile Cornudet sur un pouvoir qui flotte, avant de revenir à l'immédiateté, vous avez le souvenir, vous, d'un pouvoir flottant, d'une absence de stratégie, parce que bon, on peut dire que Macron a les crises, qu'il y a la tactique, et puis ensuite il y a le chemin qu'on avait tracé d'une élection présidentielle à l'autre. Vous avez un souvenir de flottement comme ça?
Des flottements liés à l'approche du terme d'un mandat, par exemple. C'est vrai que l'année 93, par exemple, pour les socialistes et pour François Mitterrand, avant la catastrophe électorale que seront les élections, Jacques Chirac a connu aussi cette période-là, au milieu de contestations sociales fortes, puis la dissolution, etc.
Toutes les fins de mandat sont terribles, en fait.
Absolument. Et là, évidemment...
Y compris pour un homme qui n'a pas encore 50 ans.
Voilà. Oui,
c'est pas l'âge,
du capitaine Giscard, même chose. Hein, quand Giscard était aussi combattu très violemment par le RPR à l'Assemblée, que son Premier ministre Raymond Barre utilisait le 49-3 à tout va, il y avait aussi cette sensation-là. Simplement, là, c'est vrai que pour Emmanuel Macron, c'est embêtant, parce qu'il reste quand même 3 ans et demi. Et donc, 3 ans et demi, il faut en effet les remplir. Mais ce deuxième mandat est mal né. Il est mal né parce que Emmanuel Macron a gagné sans trop de difficultés et sans vraiment se battre au moment des législatives. A-t-on dit assez répété qu'il n'avait pas fait campagne? Il n'a pas fait campagne, il a eu une majorité relative et pas de majorité absolue, alors qu'il était convaincu que mécaniquement il aurait cette majorité absolue. Donc dès le départ, ce second mandat part sur de mauvaises bases. Alors après, moi je comprends qu'il utilise cette méthode parce que elle lui réussit bien, elle lui va bien. Rappelez-vous le grand débat national, c'est le moment où il est à son meilleur, Emmanuel Macron, quand il a face à lui quelques personnes et où il peut convaincre et déployer tout son talent. Et donc la première édition de ces rencontres de Saint-Denis avait mis, au fond, tous les participants en étaient sortis séduits. Mmh. Ils étaient sortis impressionnés par le tableau général que le président de la République avait fait de la situation internationale. Et ensuite, ils étaient rentrés dans la discussion. Et donc, on comprend qu'il utilise ce moyen. Et quant à ceux qui ne veulent pas, c'est un peu dommage, honnêtement, c'est dommage, parce que... Que s'est-il passé? Il y a eu un certain nombre de discussions d'où il ressortait des thèmes communs, au fond. Et donc, Emmanuel Macron, pour la nouvelle séance, celle qui s'ouvre aujourd'hui, a épuré la discussion de tout ce qui faisait opposition ou débat pour ne garder que ce qui était potentiellement majoritaire. Donc, pour un président qui ne peut pas se représenter, entrer dans ce chemin-là et essayer d'entraîner sur quelques réformes qui pourraient faire consensus, il fait son travail. Il est au rendez-vous de ce qu'il a à faire. Et les autres ont tort, me semble-t-il, de ne pas y aller. Les autres, la LFI, pour des raisons évidentes. Olivier Faure, parce qu'il a retrouvé sa zone de confort. Il se glisse derrière LFI.
Oui, oui.
Et puis Ciotti, pour des raisons absurdes. Vraiment, qui vont continuer de creuser la tombe de LR.
Cécile Cornudet, est-ce que... Alors là, on est dans l'actualité politique, politicienne immédiate. Est-ce que Est-ce que les présidents ou les chefs d'exécutif européens n'ont pas tout simplement changé de métier? Est-ce que le métier politique, aujourd'hui,
ça, c'est une vraie question.
Ça n'est pas de gérer des crises plutôt que de dessiner pour des peuples des jardins à la française? Mais il faut assumer qu'aujourd'hui, avoir le pouvoir, ça n'est que gérer des crises sans garantir un chemin.
Ben, je pense que c'est une erreur. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a des crises et qu'il faut bien les gérer, parce qu'il y a cette dictature de l'urgence des réseaux sociaux, des médias.
Du monde.
Et qui fait que, en fait, tous les sujets passent très vite de l'un à l'autre. C'est un zapping permanent. On le voit bien, nous, journalistes. Il n'y a pas un sujet qui fait plus que deux jours. Même des sujets fondamentaux, c'est impossible. Donc, pour un président, c'est très difficile, mais je pense qu'il gère bien les crises s'il a un chemin. Donc, il faut faire les deux.
Il faut une partition pour pouvoir improviser.
Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que Jean-Marie parlait de ce rendez-vous manqué avec la campagne électorale. Une campagne électorale, en fait, c'est un contrat que vous passez avec le pays. Voilà, moi, je vous propose ça et vous me validez ce contrat. Et ce contrat n'a pas eu lieu, en fait. Il y a eu la validation sans savoir sur quoi. Et depuis, on voit que Emmanuel Macron lui-même ne sait pas vraiment. Et en plus, on voit bien aussi que la guerre de succession est en train de s'ouvrir. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, c'est ingérable.
Jean-Marie Colombani.
On touche là à ce qu'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas armé par une vision du monde ou une grille de lecture ou une idéologie quelconque. C'est une aventure personnelle. C'est une aventure personnelle qui a comme conséquence le pragmatisme. Et donc le pragmatisme, on s'adapte, on gère les crises, en effet. Et il restera d'ailleurs comme le président d'un certain nombre de crises. Mais d'autres présidents étaient armés par au moins ou une vision, une idéologie qui permettait au fond de tenir un cap. Là, ça n'est pas le cas, bien sûr.
Il y a des procès d'hommes politiques en ce moment, François Bayrou, sur ce qui pourrait être des emplois fictifs européens, et puis il y a le procès d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, devant la Cour de justice de la République. Comment vous recevez-vous ce procès? Quelle est votre lecture de ce qui se joue là? On a un garde des Sceaux qui, selon vous, a mal agi, a été mal conseillé, et qui donc, en conséquence, doit être jugé. Ou vous voyez cela comme un ultime ou un dernier avatar de ce qu'on appelle le gouvernement des juges ou la politisation de la justice?
En tout cas, on peut se dire qu'on avance vers le gouvernement des juges. Le contexte, c'est quand même le contexte assez malsain dans le pays aujourd'hui d'une justice qui affronte la politique, les politiques. Et donc, il n'y a pas que Dupond-Moretti, il y a le procès Bayrou, puis le procès Marine Le Pen à venir, et puis il y a Dussopt.
C'est l'ancien patron du Monde qui dit ça. Je me souviens qu'à l'époque où vous étiez patron du Monde, il y avait les grandes affaires qui secouaient la République et les juges étaient là et faisaient leur travail.
Et alors, c'est intéressant que vous évoquiez cette période parce que nous étions convaincus à l'époque qu'il fallait accompagner la magistrature et la justice dans sa quête d'indépendance. Parce que nous disions, c'est bon pour la démocratie française que la justice soit enfin indépendante, ce qu'elle n'a jamais été dans notre pays. Simplement, une fois que elle est aujourd'hui indépendante, totalement, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'une fois indépendante, elle aille un petit peu au-delà de son pouvoir, qu'elle aille un peu trop loin. Avec Dupond-Moretti, c'est manifeste, parce que avec Dupond-Moretti, c'était quand même d'entrée de jeu des syndicats de magistrats qui récusent sa nomination et qui veulent le conduire à la démission. Donc on peut lire l'affaire d'aujourd'hui à travers ce prisme-là. Et à chaque fois que des politiques se mettent à la faute ou sont soupçonnés de faute, mais regardez par exemple, 30 ans, plus exactement depuis la jurisprudence Balladur, je ne sais pas si j'avais déjà cité ces chiffres, depuis la jurisprudence Balladur, il y a eu 31 démissions de ministres. Au bout de cette période, si on regarde les choses, 3 seulement ont été condamnés. Donc ça vous donne aussi l'ampleur de ce qui se passe.
Cécile Cornudet, à travers ce procès, vous avez le sentiment que les magistrats visent une démission, même si, je ne parle pas des magistrats qui jugent, mais vous avez le sentiment qu'on est dans une pente de ce type-là, ou est-ce qu'ils visent une vraie condamnation pour un ministre qui a mal agi?
Alors, c'est une justice particulière. Éric Dupond-Moretti, on ne peut pas trop le comparer avec François Bayrou, par exemple, parce que c'est la Cour européenne. C'est la Cour de justice, donc c'est un mélange de magistrats et de parlementaires. Et donc c'est aussi un procès politique, et c'est ça qui va être intéressant à lire.
Est-ce que les parlementaires vont retenir vont retenir la sanction.
Et ben c'est ça.
Vous avez le sentiment qu'ils ne vont pas cautionner ce qu'une partie de l'opinion peut considérer comme un gouvernement des juges ou une justice politique.
En tout cas, ils savent que si, par exemple, ils acquittent Éric Dupond-Moretti, on dira, vous voyez, c'était un procès politique, et donc, du coup, est-ce que la Cour de justice a encore une raison d'être, et on va vous supprimer. Et les avocats ont joué de ça pour faire pression sur les juges. Mais là, c'est vrai que sur son acquittement ou pas, ce qu'on entend, c'est comment va se comporter LR, par exemple. Est-ce qu'ils vont vouloir faire tomber le ministre ou pas? Parce qu'en fait, cette affaire est quand même très compliquée. Il y a des arguments dans un sens comme dans un autre. Donc, il y a une vraie interrogation sur est-ce qu'il va être acquitté ou pas. Ce n'est pas la même problématique qu'une vraie, une vraie cour comme pour François Bayrou qui, lui, pâtit d'autre chose. C'est que comme son procès, comme ce qui lui est reproché étant plus petit, ce qui est reproché à Marine Le Pen, c'est une sorte d'avant-goût. Et on sent que les juges pourraient condamner François Bayrou avec le Parlement européen qui est très offensif derrière parce qu'ils ont envie derrière de condamner Marine Le Pen.
Ah oui, il y aurait des vases communicants.
Voilà, et dans la Macronie, il y a ce jeu un petit peu ambigu qui est que François Bayrou est l'un des leurs, donc ça ferait quand même tâche dans le paysage, mais en même temps, ils aimeraient beaucoup que Marine Le Pen, derrière, soit elle aussi condamnée. Donc, grosse interrogation.
Il faut rappeler que François Bayrou est poursuivi parce qu'il est le chef du parti et qu'en tant que chef, on lui reproche des choses qu'il ne connaissait pas nécessairement.
Alors, ce qui est possible, c'est que le parti soit condamné et pas le chef, voilà, finalement.
Mais vous savez, dans les entreprises, c'est le patron qui est poursuivi. Absolument, pour toutes les âneries qui peuvent être faites. Et donc, quand on veut être patron, il faut être patron jusqu'au bout, qu'on soit en politique ou dans les entreprises.
Je sais ça par cœur. J'ai eu un certain nombre de condamnations.
Par exemple, moi, si je fais des bêtises, c'est Hervé Gatteignol, directeur de l'information, qui devra en rendre compte. C'est ça qui est pratique pour moi. Allez, je plaisante. Un dernier mot, mais alors très rapidement, sur cette manifestation des artistes dimanche pour la paix, contre la guerre. Et finalement, c'est bon à prendre ou vous dites ils se sont planqués pendant un mois et demi et ils se réveillent?
Moi, je me dis il fallait se manifester le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre. Il fallait se montrer davantage dans la manifestation contre l'antisémitisme. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que... Enfin, c'est pour le coup, je trouve, ça laisse une impression, pas de malaise, mais enfin... Un peu dérisoire, je trouve.
C'est vrai qu'ils ne se mouillent pas. C'est ni pour un camp, ni pour l'autre, pour la paix dans le monde. Les banderoles seront blanches, il n'y aura pas de slogan. Mais c'est vrai qu'ils étaient très critiqués pour ne rien avoir dit et qu'ils essayent d'avoir une réponse, les artistes.
C'était Nos Esprits Libres, on va les quitter avec... La musique et les chants de la flûte enchantée. Cécile Cornudet des Échos, Jean-Marie Colombani de Slate.fr. Merci à tous les deux, Radio Classique. Il est 8h57. Vive Nos Esprits Libres et vive Mozart.